Pourquoi je ne suis pas pessimiste. Éphésiens 5h15-17. 18 mars 2009 Repritchard. Mon texte d'aujourd'hui est très court, seulement 3 versets. Et ces versets sont courts eux-mêmes. On les néglige souvent car ils sont encadrés par deux passages très connus. Comme c'est souvent le cas dans la Bible, de petits versets peuvent être très révélateurs. La question posée dans le titre provient du verset du milieu, qui nous exhorte à saisir chaque opportunité car les temps sont mauvais. Nous devons entendre ce que Dieu nous dit car nous vivons effectivement des temps difficiles. La crise économique mondiale a engendré des pertes de plusieurs milliers de milliards de dollars. Des personnes qui, il y a à peine un an, avaient des perspectives d'avenir raisonnables ont vu toute une vie de labeur anéantie. Et cette perte s'accompagne d'une incertitude croissante. Il y a une semaine, le pasteur new-yorkais David Wilkerson, auteur de La Croix et le Poignard, a publié un message prédisant une catastrophe imminente pour l'Amérique. Il a parlé de villes en flammes à cause des émeutes et des pillages. Il affirmait que ce serait le jugement de Dieu sur notre nation. J'ai lu par hasard sa prophétie, si l'on peut l'appeler ainsi, un jour ou deux après qu'il l'ait prononcée. Mais j'ai été profondément marqué lorsque Peggy Noonan l'a évoqué dans sa chronique hebdomadaire du Wall Street Journal. Sous le titre « Il n'y a pas de remède à ce genre de dépression », Noonan commence par souligner que le problème ne se limite pas à la crise économique. « Il y a, dit-elle, quelque chose de bien plus profond. J'ai demandé à un ami, écrivain perspicace, s'il partageait mon point de vue. Oui, m'a-t-il répondu, il règne un sentiment d'anxiété généralisée, comme si chacun avait l'impression de marcher sur un fil. Il se demande si ce n'est pas le sentiment d'avoir été trop tranquille ces dernières années depuis le 11 septembre et que les méchants sont sur le point d'apparaître. Un avocat d'un cabinet de parc avenu a déclaré, on dirait que les choses ont changé et qu'elles ne reviendront peut-être pas à la normale. Elle s'interroge ensuite sur l'usage généralisé des antidépresseurs après le 11 septembre. Cela a-t-il contribué, d'une manière ou d'une autre, à la perte de contrôle qui a engendré l'euphorie artificielle et, par conséquent, l'avidité irrationnelle à l'origine de l'effondrement actuel? Peut-être. Qui sait? Elle évoque plusieurs autres facteurs. Les ventes d'armes sont en hausse. Les gens accumulent argent et or. On commence à cultiver ses propres aliments. À Manhattan, la fréquentation des églises semble augmenter. Il se passe quelque chose. Hier, un ami m'a transmis l'avertissement du pasteur évangélique David Wilkerson, de l'église de Times Square, une nouvelle catastrophe est imminente. Cette nouvelle fait sensation dans les milieux évangéliques. De plus, la population a perdu confiance en son gouvernement. Elle a le sentiment d'avoir été trompée. Comment expliquer autrement le chaos actuel? Le cynisme généralisé envers nos dirigeants semble transcender les clivages partisans. Noonan s'est entretenu avec un psychiatre qui analysait ainsi l'état d'esprit de ses patients. Les gens se sentent démunis, submergés, la situation apparemment irrémédiable. Le résultat? Ils pensent observer, dans son cabinet comme ailleurs, une véritable pandémie psychologique de peur quant à l'avenir des choses, de notre pays, voire de l'humanité. La chronique se termine par ces mots qui donnent à réfléchir. L'époque que nous vivons est étrange, inquiétante, une époque qui semble marquée par de nombreuses fins. Dommage qu'il n'existe pas de remède miracle. Alors, que dire de tout cela? Premièrement, je partage en grande partie son analyse de l'état d'esprit actuel du pays. Difficile d'être optimiste quand ses économies pour la retraite s'évaporent subitement ou que son emploi est supprimé suite à une restructuration. Deuxièmement, j'ignore si David Wilkerson a raison ou non. Si c'est le cas, alors des jours dangereux nous attendent. Troisièmement, je crois que des périodes comme celle-ci surviennent souvent à des moments charnières de l'histoire, lorsque Dieu, pour ainsi dire, remanie soudainement tous les éléments. Nous sommes peut-être entre deux mondes, nos mains arrachées au passé, tendues vers l'avenir, suspendues dans le vide, sans savoir s'il y a un filet de sécurité en dessous. Nous ne pouvons pas prédire ce qui se passera à l'ouverture de la bourse demain matin. Nous n'avons pas de boule de cristal pour prédire ce qui se passera dans 6 semaines, 8 mois ou 5 ans. Les mystères appartiennent au Seigneur notre Dieu. Et même à petite échelle, nous ne pouvons pas prédire ce qui se passera à l'ouverture de la bourse demain matin. Ni quand ni où éclatera la prochaine guerre. Comment devons-nous vivre en ces temps-ci? Notre texte nous offre 3 réponses, chacune porteuse d'indications claires pour l'avenir. Le monde actuel est confronté à une situation étrange, une apparente contradiction. Les choses s'aggravent. De grandes opportunités s'offrent aux enfants de Dieu. Devons-nous être optimistes ou pessimistes? Devons-nous trouver un juste milieu? Voyons comment la parole de Dieu nous aide à répondre à ces questions. Y faites attention où vous mettez les pieds. Prenez donc bien garde à votre conduite, ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des sages, Éphésiens 5h15. Faire attention signifie littéralement marcher avec précision. La version King James utilise l'ancien terme circonspection. Cela évoque l'image de marcher sur un sentier étroit à flanc de montagne. Soyez vigilant pour ne pas faire un faux pas et vous précipiter vers la mort. Le plus souvent, nous trébuchons non pas en poursuivant le mal à corps perdu, mais en poursuivant le bien avec enthousiasme. Parfois, nous avons tendance à vivre trop vite. Nous portons trop de jugements hâtifs, prenons trop de décisions précipitées, parlons trop vite, agissons trop vite, réagissons trop vite, répondons avant même d'avoir entendu la question, et continuons d'accélérer sans cesse, submergés par nos responsabilités et incapables de ralentir. Il est même possible, au nom de Dieu, d'aller trop vite. Nous voulons corriger les injustices du monde trop rapidement. Nous cherchons à conquérir le monde trop vite. À force de parler trop vite, nos paroles sont hâtives et inopportunes. Nous agissons avant d'être prêts, parlons avant d'avoir quelque chose à dire, enseignons avant d'avoir appris, et construisons haut avant de construire en profondeur. Que se passe-t-il quand on se dépêche sans cesse? On ne regarde pas où l'on va, on trébuche et on tombe. Le plus souvent, on trébuche non pas en poursuivant le mal à corps perdu, mais en poursuivant le bien avec autant de précipitation. La solution ne réside pas dans l'achat d'un agenda ou dans l'organisation, mais dans les paroles ancestrales du psalmiste. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu, psaume 46.10. Lorsque nous prenons le temps de laisser Dieu agir, nous découvrons qu'il peut faire bien plus à travers nous que nous ne pourrions jamais accomplir par nous-mêmes. 2. Rachetez le temps. Profitez du temps qu'il vous faut, car les jours sont mauvais, Éphésiens 5.16. La version King James utilise le mot « racheter » comme dans « racheter le temps ». Pour nous, « racheter » est un mot de salut, mais à l'origine, il vient du monde des affaires et signifie « racheter » ou « acheter quelque chose ». On rachète quelque chose lorsqu'on l'achète pour son propre usage. Nous vivons des temps difficiles. ; Vous remarquerez que la NIV utilise le mot « opportunité » au lieu de « temps ». C'est parce que le grec possède deux mots fondamentaux pour désigner le temps. L'un d'eux fait référence au passage du temps au sens où nous parlons d'heures, de minutes et de secondes. Quelle heure est-il? Il est 18h22. Nous partons dans 8 minutes. C'est une forme de temps. L'autre mot grec ne désigne pas le passage strict du temps, mais le moment opportun qui exige une action. C'est ce que Martin Luther King voulait dire lorsqu'il s'est adressé à l'immense foule rassemblée au Lincoln Memorial, sur le National Mall à Washington, D.C., par une chaude journée. Un jour d'août 1963, nous sommes également venus en ce lieu sacré pour rappeler à l'Amérique l'urgence impérieuse du moment présent. C'est cette expression, l'urgence impérieuse du moment présent, qui est essentielle. Mais ce n'est pas tout. Paul explique qu'il y a une raison particulière pour laquelle nous devons racheter le temps et saisir l'urgence impérieuse du moment présent. Voyez cette petite phrase à la fin du verset 16, « car les jours sont mauvais ». Voici une autre traduction, « ce sont des temps désespérés ». MSG. Au XXIe siècle, nous ne sommes rien comparés au monde antique. Paul écrit ces mots enchaînés aux gardes d'une prison romaine. L'empereur s'appelait Néron, un roi pervers et indigne. Bientôt, il incendiera Rome et en accusera les chrétiens. Plus tard, il ordonnera la décapitation de Paul. Éphèse était alors une ville entièrement vouée au paganisme. À l'époque de Paul, c'était la ville la plus importante de la province romaine d'Asie. Située près de la côte, Éphèse était un centre de commerce international. C'était une ville prospère, animée et florissante. Si un guide touristique d'Éphèse avait existé au 1er siècle, il aurait mentionné le célèbre temple d'Artémie. C'était la gloire de l'Éphèse antique. Artémie était appelée Diane par les Romains. Mais il s'agissait de la même déesse. Artémie était la déesse de la sexualité. Son temple était considéré comme l'une des sept merveilles du monde antique. La partie centrale abritait une statue de femme avec de nombreux seins, symbolisant une liberté sexuelle sans entrave. Nous, au XXIe siècle, sommes bien loin du monde antique. Le peuple s'enflammait de ferveur religieuse et laissait libre cours à ses désirs les plus lubriques. Un auteur antique disait des Éphésiens, leur moralité était plus basse que celle des animaux. Astrologie, magie noire et sorcellerie s'alliaient à la perversion sexuelle pour engendrer une forme dégradée d'idolâtrie qui tenait l'Éphèse antique sous son emprise. Pendant ce temps, la persécution s'annonce. À mesure que l'évangile se répandait, il se heurtait à l'opposition d'intérêts bien établis qui voyaient en Jésus et ses disciples une menace. Les courants hérétiques menaçaient de corrompre la pureté de l'évangile. C'est ce que Paul voulait dire lorsqu'il s'écriait « Nous vivons des temps désespérés ». Que dirait-il aujourd'hui? Les jours de corruption morale offrent des occasions exceptionnelles de mener à bien de grandes entreprises pour le royaume de Dieu. ; Les mauvais jours nous incitent au désespoir, nous poussent à abandonner, à dire « C'est impossible », car le jour est sombre, les cœurs se sont endurcis et il n'y a plus rien à faire. Pour ma part, je refuse de penser ainsi. Parfois, nous abandonnons trop vite. Les jours de corruption morale offrent des occasions exceptionnelles de mener à bien de grandes entreprises pour le royaume de Dieu, G. Campbell Morgan. Voilà une bonne nouvelle. Ce qui nous rend la vie chrétienne difficile est aussi ce qui nous fait rayonner. Les épreuves sont des bénédictions déguisées. Les jours de compromis moral offrent des occasions incroyables de proclamer l'Évangile. Quand le monde autour de nous semble sombrer dans le chaos, nous avons une occasion extraordinaire de manifester la puissance transformatrice de Jésus-Christ. Plus la nuit est sombre, plus la lumière brille. Faites la volonté de Dieu. C'est pourquoi ne soyez pas insensés, mais comprenez ce que les hommes doivent être. Que la volonté du Seigneur soit faite, Éphésiens 5:17. J'ai toujours été profondément ému en regardant la vidéo du dernier discours de Martin Luther King, celui qu'il a prononcé à Memphis le 3 avril 1968, la veille de son assassinat. Replacé dans son contexte, ce message est d'un espoir remarquable, compte tenu de la pression qui régnait alors. Et parce que nous savons ce qui s'est passé le lendemain, nous avons tendance à ne pas percevoir cette tonalité optimiste. Bien que l'on ressente la pression incessante de l'opposition et les menaces de mort, une foi inébranlable demeure. Le Dr King formule son message ainsi, « Imaginez que Dieu vienne à vous et vous pose cette question, Martin Luther King, à quelle époque aimeriez-vous vivre ? » Il entreprend ensuite de passer en revue toute l'histoire de l'humanité, en commençant par l'Égypte, puis en abordant la Grèce et Rome, avant de faire un bond jusqu'à la Renaissance et la Réforme protestante, puis l'époque d'Abraham Lincoln, et enfin les temps troublés de 1968 où le tissu même de la nation sembla sur le point de se désintégrer. Voici sa réponse imaginaire à la question imaginaire du Tout-Puissant. Étrangement, je me tournerai vers le Tout-Puissant et dirai, si vous me permettez de vivre quelques années seulement dans la seconde moitié du XXe siècle, je serai heureux. Voilà une déclaration étrange, car le monde est dans un tel état. La nation est malade. Le pays est en proie aux troubles. C'est la confusion générale. C'est une déclaration étrange. Mais je sais, d'une certaine manière, que ce n'est que dans l'obscurité la plus totale que l'on peut voir les étoiles. Il poursuit en évoquant ce que signifie vivre à un moment aussi crucial de l'histoire et l'applique à la situation de la grève des éboueurs à Memphis. En le lisant cette semaine, j'ai ressenti la puissance monter jusqu'à ce point culminant, celui où il prononce des mots à la fois poignants et prophétiques, « Eh bien, je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Des jours difficiles nous attendent. Mais cela m'importe peu, car j'ai atteint le sommet de la montagne. Et cela ne me dérange pas. Comme tout le monde, j'aimerais vivre longtemps. La longévité a son importance. Mais ce n'est pas ce qui me préoccupe maintenant. Je veux simplement faire la volonté de Dieu. Et il m'a permis de gravir la montagne. Et j'ai contemplé le paysage. Et j'ai vu la terre promise. Je n'y arriverai peut-être pas avec vous. Mais je veux que vous sachiez ce soir que nous, en tant que peuple, atteindrons la terre promise. Et je suis heureux ce soir. Je ne m'inquiète de rien. Je ne crains personne. Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur. Dans 1000 ans, nous nous souviendrons encore de ces paroles. Je suis toujours frappé par cette simple phrase dans son dernier paragraphe, « Je veux simplement faire la volonté de Dieu ». Ces 7 mots résument comment nous devrions tout envisager l'avenir, conscient de l'urgence du présent, reconnaissant du privilège de vivre en ces temps-ci, où que Dieu nous ait placés. Les chrétiens sont à la fois pessimistes et optimistes, mais nous sommes bien plus optimistes car, malgré ce qui se passe dans le monde qui nous entoure, nous savons que Jésus-Christ a vaincu la mort. Je veux simplement faire la volonté de Dieu. Alors, la dernière question, Pasteur Ray, êtes-vous optimiste ou pessimiste? Les deux, mais surtout optimiste car je sais que Dieu maîtrise les circonstances de la vie. Parfois, la réponse dépend du contexte. C'est comme être à Jérusalem au moment de la crucifixion de Jésus. Le vendredi, le pessimisme régnait. Mais le dimanche, alors que la vérité se répandait peu à peu, que le Seigneur était ressuscité des morts, alors que cette vérité fondamentale éclatait au grand jour, alors qu'il commençait à croire à la meilleure bonne nouvelle jamais entendue, la tristesse se changea en joie, le chagrin en rire et le désespoir en espoir. Nous vivons de ce côté-ci du tombeau vide. Alors, oui, les chrétiens sont à la fois pessimistes et optimistes, mais nous sommes bien plus optimistes car, malgré ce qui se passe dans le monde qui nous entoure, nous savons que Jésus-Christ a vaincu la mort. Et parce qu'il est vivant, nous aussi, nous vivrons. Cela me ramène à David Wilkerson et Peggy Noonan. Si je partage leurs inquiétudes et si je m'interroge sur l'avenir à court terme, je sais ce qu'il nous réserve à long terme. Et c'est ce qui fait de moi, en fin de compte, un optimiste biblique. Nous vivons une époque formidable. une époque passionnante, une époque extraordinaire, une époque incertaine, une époque effrayante. Tout cela est vrai en même temps. Lorsque nous voyons le mal progresser dans le monde, souvenons-nous des paroles de Jésus, « Qu'est votre cœur ne se trouble point ». Jean 14.1, après le décès, il y a quelques semaines, du célèbre animateur radio Paul Hervé, je suis retombé sur l'une de ses citations les plus connues. Dans des moments comme ceux-ci, il est bon de se rappeler qu'il y en a toujours eu. Paul Hervé avait raison. Il y en a toujours eu. Et quoi qu'il arrive aujourd'hui, les promesses de Dieu resteront vraies demain. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, il est devenu mon salut, Exode 15, 2. Fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas terrifier par eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous, il ne vous délaissera point et ne vous abandonnera point, Deutéronome 31, 6. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu, 1 Samuel 2, 2. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux, 2 Rois 6h16. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, Psaume 23, 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse, Psaume 46.1. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, Psaume 103.12. Quel est Dieu comme toi, qui pardonne le péché, qui oublie la transgression du reste de ton héritage? Michée 7.18. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8.31. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, Hébreux 13.5. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, 1 Jean 4.4. Voici deux derniers versets, parmi les centaines que l'on pourrait citer dans toute la Bible. Le premier verset est en réalité l'avant-dernier de toute la Bible. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Apocalypse 22.20. Carpe Deum. Profitez de ce jour pour Dieu. Voici comment nous devrions vivre à la lumière de ces magnifiques promesses de Dieu. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, tenez bon. Que rien ne vous ébranle. Travaillez sans relâche à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas vain. 1 Corinthiens 15.58. Courage. Qu'est votre cœur ne se trouble point. Soyez prudent. Rachetez le temps. Efforcez-vous de faire la volonté de Dieu chaque jour. Pourquoi être pessimiste alors que nous vivons les plus beaux jours de l'histoire? Qui sait si nous ne serons pas la génération qui entendra l'appel de Dieu? Jésus pourrait revenir de notre vivant. Si cela est vrai, la situation s'améliorera et s'aggravera à la fois. Quoi qu'il en soit, ne désespérez pas. Carpe Deum. Profitez de ce jour pour Dieu.